Vous écoutez France Inter, il est 19h. C'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonsoir. Éric.
Bonsoir Thomas et bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, troisième jour de guerre entre Israël et l'Iran. Au moins 124 morts en Iran depuis vendredi, 14 en Israël. Nous serons en ligne dans les deux pays. D'abord au sud de Tel Aviv où la population est abasourdie depuis qu'elle a reçu la nuit dernière un missile meurtrier. Et puis nous irons à Téhéran où désormais les écoles, les mosquées et les stations de métro font office d'abri pour la population. À la une également ce soir, Emmanuel Macron en visite éclair au Groenland pour redire que ce territoire de glace convoité par Donald Trump n'est pas à vendre. Le départ dans les prochaines heures d'une mission scientifique française pour aller étudier la potentielle contamination radioactive dans les hauts fonds de l'océan Atlantique, là où sont volontairement immergés plus de 200 000 fûts remplis de déchets radioactifs depuis 40 ans. Nous recevrons dans ce journal l'un des chercheurs co-responsables de cette campagne scientifique. De façon beaucoup moins scientifique, nous irons jauger l'état de stress des 533 640 candidats au bac général et technologique à la veille de leurs premières épreuves écrites. Enfin, le temps de ce lundi, Magali Rochereau, ce sera la fin de la séquence pluvieuse.
Oui, Éric, l'activité orageuse sera terminée et la semaine qui arrive s'annonce ensoleillée avec des températures en hausse.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Israël a intercepté cet après-midi une nouvelle salve de missiles iraniens sans dégâts particuliers. En revanche, la nuit dernière, les tirs en provenance d'Iran ont fait au moins une dizaine de morts, plus de 300 blessés. Et comme la guerre est aussi une bataille de communication, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussitôt promis de sévères représailles.
Nos pilotes sillonnent le ciel de l'Iran. L'Iran paiera un prix très lourd pour le meurtre de civils, de femmes et d'enfants. Un meurtre prémédité. Nous atteindrons nos objectifs et leur assènerons un coup retentissant. Ils sentiront la force de nos bras.
Et la nuit dernière a donc été particulièrement meurtrière en Israël, notamment à Bat Yam, c'est au sud de Tel Aviv. La chute d'un missile a fait 7 morts. La population reste abasourdie et même parfois critique envers leur premier ministre. Reportage à Bat Yam de Thibault Lefebvre.
3h du matin, un missile frappe de plein fouet un immeuble de 10 étages.
Nous étions dans un abri, on a juste entendu les explosions.
7 morts, dont un garçon de 10 ans, une centaine de blessés. Sous les yeux de Guerra, les secours s'activent pour essayer de retrouver 3 personnes disparues. La frappe sur Bat Yam est la plus meurtrière depuis la guerre ouverte engagée par Israël contre l'Iran. Et les civils sont en première ligne.
Ce sont des frappes aveugles, ça peut être au centre de Tel Aviv, à Ramat Gan, à Bat Yam, n'importe où.
Tous les petits immeubles de 3 à 4 étages dans un rayon de 300 mètres ont été touchés.
Toutes les fenêtres sont à terre.
L'appartement d'Henri est détruit et pourtant, comme Guerra et une grande majorité d'Israéliens, il soutient la guerre.
C'est le prix à payer. L'Iran est responsable de tous nos problèmes. Nous n'avions pas le choix. C'est un pays qui affirme qu'il va détruire Israël. S'ils ont l'arme nucléaire, c'est un désastre.
Henri veut qu'Israël écrase l'Iran, mais il ne soutient pas pour autant son premier ministre. Benjamin Netanyahou est selon lui responsable du succès actuel, mais il n'oublie pas et il ajoute qu'il est aussi coupable de l'échec à Gaza.
Voilà donc pour ce reportage de Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter en Israël et dans les territoires occupés. 14 morts donc en Israël après 3 jours de conflit et bien plus en Iran. Au moins 128 morts ont péri sous les bombes israéliennes. 900 blessés, ce sont des chiffres rapportés par le quotidien iranien Etmad, citant le ministère de la Santé. 5 morts supplémentaires cet après-midi à Téhéran. À l'instant, Israël dit avoir commencé à frapper des dizaines d'installations de missiles dans l'ouest de l'Iran. Bonsoir, Siavosh Kazi.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Téhéran. Conséquence de cette escalade militaire, à partir d'aujourd'hui, les mosquées iraniennes, les stations de métro comme les écoles servent désormais d'abri à la population.
Absolument. Donc le gouvernement a annoncé que ces lieux seront ouverts toute la nuit pour permettre aux gens de s'y rendre en cas de nécessité. Puisque en Iran il n'y a pas d'abri, c'est une mesure qui a été donc décidée par le gouvernement. Il y a eu une cinquantaine de frappes à Téhéran cet après-midi, notamment dans des zones résidentielles. Près de chez moi, à une quelques centaines de mètres, un missile est tombé sur une place qui est normalement bondée de monde. Et donc il y a fauché, donc l'explosion qui a suivi a fauché des passants qui se trouvaient là. Et dans d'autres quartiers, j'ai eu des témoignages d'habitants qui me disaient que les missiles tombés dans leur quartier avaient provoqué par exemple des destructions des fenêtres qui avaient volé en éclats ou des fenêtres qui avaient tremblé. Donc il y a une crainte très très importante puisque le missile ne vise pas seulement des bâtiments officiels ou des bases militaires ou des centres nucléaires, mais aussi dans des zones résidentielles. Il y a des fois des frappes importantes et avec donc un nombre important de civils qui ont été tués, notamment des enfants. Il y a, selon des dernières informations, une trentaine d'enfants qui ont été tués dans les différentes frappes qui ont été menées depuis vendredi matin sur Téhéran et dans d'autres villes du pays. Donc cette mesure du gouvernement fait suite à cela. Il y a eu aujourd'hui pour la première fois deux explosions dans la ville de Mashhad qui se trouve à la frontière avec l'Afghanistan. Donc c'est la première fois que cette partie de l'Iran est touchée par des violences. Une situation très tendue. Merci. Les habitants de Téhéran, beaucoup d'habitants ont décidé de quitter Téhéran pour se mettre à l'abri à la campagne ou à la mer Caspienne en attendant de voir comment les choses vont évoluer.
Merci beaucoup Siavosh Ghazi, correspondant de France Inter, en direct donc de Téhéran. À l'instant, Israël annonce que l'armée israélienne a eu le chef du renseignement iranien et son adjoint, et on comprend ce que signifie cette conjugaison du verbe avoir. Benjamin Netanyahou annonce que ils ont le chef de renseignement iranien et son adjoint, probablement mort, donc c'est ce qu'ils disent ce que le Premier ministre dit à la chaîne Fox News. Donald Trump appelle Israël et l'Iran à trouver un accord sur la chaîne ABC. Il a aussi envisagé une possible implication des États-Unis dans ce conflit. Le président américain s'est également dit ouvert à une médiation que conduirait le président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes en auraient d'ailleurs parlé au téléphone. Du mauvais temps, du gros temps cet après-midi au Groenland pour l'arrivée d'Emmanuel Macron. Sur place, le président français a critiqué la volonté de Donald Trump d'annexer ce territoire autonome sous tutelle danoise. Il faut dire que cette île de glace, la plus grande du monde, est riche en métaux rares. Donald Trump souhaite avoir la mainmise par tous les moyens, dit-il, y compris militaires. Reportage de notre envoyé spécial au Groenland, Louise Baudet.
Le ciel est bas, mais l'accueil chaleureux sur cette terre arctique où le président français a atterri en début d'après-midi. Au loin, les applaudissements de quelques Groenlandais.
We're getting closer together. C'est important parce que c'est grave avec Donald Trump.
Dès son arrivée, Emmanuel Macron dénonce de nouveau les menaces d'annexion de Donald Trump.
Je pense que c'est pas ce qui se fait entre alliés. Et donc c'est important de montrer qu'il y a un engagement autour de ce territoire dont l'intégrité territoriale doit être respectée.
Direction ensuite la frégate porte-hélicoptère Nils Juul pour une sortie en mer dans le fjord de Nuuk, la capitale. Au loin, les glaciers qui peu à peu disparaissent.
On le voit bien quand on regarde ces images de cette glace qui fond.
Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur français pour l'épaule.
La perspective d'un renversement du commerce maritime qui pourrait passer de Suez à ici, donc là une autre forme de richesse considérable. Donc c'est un endroit stratégique de tension, forcément, qui intéresse beaucoup de pays.
Les États-Unis, la Russie, mais aussi la Chine, attirés par la nouvelle voie maritime bientôt ouverte, les appétits de Pékin qui peuvent mettre d'accord l'Europe et l'Amérique trumpiste, estime l'Élysée. D'ailleurs, Donald Trump trouve la visite d'Emmanuel Macron formidable, super, il le lui a dit au téléphone. Pas question de surjouer l'affrontement avec le président américain à quelques heures d'un sommet censé préserver l'unité du G7. Nuuk, au Groenland, Louise Baudet, France Inter.
Et le Canada accueille le G7 dans un contexte très tendu et le président français qui y participe aura donc fait étape au Groenland. C'était Louise Baudet, envoyée spéciale de France Inter au Groenland. Ce sera dans quelques heures. Une mission scientifique française baptisée NOTSUM partira en bateau dans le nord-est de l'océan Atlantique pour étudier une potentielle contamination radioactive dans les hauts fonds à plus de 4000 mètres de profondeur, là où pendant 40 ans, jusqu'en 1990, plusieurs États européens se sont débarrassés de plus de 200 000 fûts remplis de déchets radioactifs. Avec quelles conséquences pour l'environnement 35 ans après ? Eh bien, c'est toute la question. Bonsoir Patrick Chardon.
Oui, bonsoir.
Vous êtes co-responsable de cette mission NOTSUM, portée par le CNRS, en collaboration notamment avec l'IFREMER. Vous embarquerez à minuit tout à l'heure du port de Brest. D'abord, qu'y a-t-il précisément dans ces centaines de milliers de fûts ?
Alors en fait, ce sont tous les déchets qui ont été générés par le développement de l'industrie du nucléaire dans l'immédiate après-guerre, hein, grosso modo des années 50 jusqu'aux années 80 où ça a commencé à être une pratique polémique. Hein. Donc ce ne sont pas des déchets de très haute activité, hein, ce n'est pas les déchets dont on parle souvent par rapport au site d'enfouissement de Cigéo-Bure. Là, on est plutôt dans des déchets qui ont participé à la mise au point de toutes les technologies associées au nucléaire. Donc on va retrouver principalement des échantillons et des éléments de laboratoire et des choses comme ça qui sont contaminés.
Alors, vous allez d'abord cartographier la zone avec un nouvel engin, hein, un sous-marin autonome. Dernière technologie, c'est quoi exactement ?
Voilà, tout à fait. On va bénéficier pour cette mission du tout nouveau robot sous-marin autonome de la flotte océanographique française qui a été développé en collaboration avec l'IFREMER.
Ulix.
Alors, Ulix, voilà, c'est son petit nom. Ça va être sa première mission scientifique. Il a fait des campagnes de tests jusque-là. Et là, on part vraiment pour pouvoir cartographier la distribution de ces fûts. Il faut savoir qu'on en a 200 000 fûts qui ont été répartis sur à peu près 14 000 km². Et la problématique pour nous, c'est de pouvoir observer aux bons endroits les effets sur l'écosystème.
Et vous ferez des prélèvements des sédiments environnements, de l'eau également. Vous vous attendez à quel taux de radioactivité ?
Alors, on s'attend pas à des taux absolument extraordinaires, puisqu'à la base, le déclaratif fait qu'on s'attend pas à des déchets hautement actifs. La question qui se pose, c'est effectivement, comme on n'a pas d'inventaire fiable, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, on a des éléments qui ont des périodes plus ou moins longues, hein, des durées de vie qui sont plus ou moins longues, donc certains peuvent toujours être présents et avoir un effet sur l'écosystème. Et surtout, ce qu'on cherche à évaluer, c'est les conséquences sur des décennies de cette pratique sur l'écosystème global, en fait. Hein. On est dans des écosystèmes sous-marins qui sont très, très peu connus.
Vous allez remonter également capturer des poissons et autres animaux marins. S'ils sont contaminés, ça voudrait dire que la radioactivité est entrée dans la chaîne alimentaire.
Voilà, c'est une des questions qui se posent. Hein. L'objectif de la mission, c'est on n'est pas là pour juger ce qui a été fait à ces périodes-là, on est là pour estimer les impacts et pouvoir estimer les conséquences par rapport à l'écosystème. Donc on va regarder tous les compartiments accessibles, je dirais, donc des amphipodes, des petites crevettes, des poissons, pour regarder globalement l'activité qui peut circuler.
Eh bien, merci de vos explications. Patrick Chardon, donc co-responsable de cette mission, cette campagne NOTSUM qui embarquera tout à l'heure à minuit au départ de Brest jusqu'au 11 juillet.
France Inter, Éric Delvaux.
Voilà une dernière soirée que l'on souhaite sereine pour les 533 640 candidats au bac général et technologique. Les épreuves écrites débuteront demain. Les élèves de la voie professionnelle ont déjà passé une partie de leurs examens le mois dernier. Pour les autres, donc, épreuve de philo demain au réveil, 8h. Enfin, on souhaite que le réveil sera bien plus tôt. Les candidats sont-ils stressés ? Reportage de Sonia Princé au lycée de Cachan, près de Paris.
Sourire tranquille, allure décontractée chez ces lycéens qui vont passer le bac comme Pierre.
Moi je me sens plutôt confiant et je pense que le bac c'est plutôt facile, le contrôle continu aide aussi.
Les notes au cours des années de première et de terminale comptent pour 40% du résultat final. Alors Enzo et Enzo ont tous les deux fait leurs calculs.
Avec des simulateurs où on a juste à rentrer nos notes ou sinon nos moyennes des années précédentes pour voir la note qu'on aura en fait.
Je suis pas obligé forcément d'avoir la moyenne partout pour avoir le bac. Je peux même avoir visé une mention.
Marion explique qu'elle est beaucoup moins sous pression que l'an dernier pour le bac de français.
Il y a eu déjà tous les résultats Parcoursup, on a vraiment beaucoup moins de stress. L'année dernière, on était vraiment beaucoup plus tout le temps à la bibliothèque, tout le temps à travailler, alors que là, c'est un peu plus détente.
Finalement, les plus inquiets ne sont pas ceux qu'on croit.
Est-ce que vous stressez un peu pour vos élèves ? Complètement.
Amélie Godon est professeure de physique chimie.
Complètement, parce que c'est l'aboutissement de toute une année de travail. Le fait que tout se passe bien pour nos élèves que l'on a accompagnés durant un an, on sait que pour certains, c'est un peu compliqué. C'est pas évident pour nous aussi.
L'an dernier, près de 96% des candidats en filière générale ont décroché leur bac et 90% en filière technologique.
Un reportage de Sonia Princey. Ce sera également à la une demain, l'ouverture du salon aéronautique du Bourget. Salon de l'air et de l'espace le plus important du monde, 2500 exposants venus d'une cinquantaine de pays. Dans un contexte géopolitique bien tendu, les militaires du monde entier vont donc venir découvrir sur pièce les avions de chasse du futur et aussi les drones de demain, Eric Bigala.
La multiplication des engins de type drone a pris un tour quasi exponentiel. En Ukraine d'abord, on a commencé avec des drones de surveillance, on a ensuite vu des drones d'attaque, capables au début de larguer un simple obus sur une cible, puis de se diriger quasiment seul et de faire exploser un blindé avec une charge embarquée. Et ce n'est pas fini. Les drones et les mesures anti-drones se démultiplient. Il y a des drones anti-drones, des brouilleurs de guidage, des drones philo-guidés pour éviter les brouillages. Il y a 6 mois encore, un industriel nous confiait qu'il fallait 8 semaines entre le moment où l'on concevait un armement de type drone et le moment où la parade contre cet armement était trouvée. Ce qui veut dire qu'il faut constamment innover, produire, et ce, à échelle industrielle. L'Ukraine assure pouvoir produire 4,5 millions de drones d'attaque pour 2025. Et il n'y a pas que les Russes ou les Ukrainiens pour les employer. Lors de l'attaque de vendredi sur l'Iran, Israël avait infiltré des équipes de pilotes de drones en Iran même pour cibler les défenses sol-air du pays. Le drone est l'avenir immédiat des guerres et celles-ci, à l'évidence, sont en train de se multiplier.
Eric Biegala, direction de l'actualité internationale à France Inter. Et pour revenir au dossier proche-oriental, l'armée israélienne indique ce soir avoir commencé à frapper des dizaines d'installations de missiles sol-sol dans l'ouest de l'Iran, au troisième jour d'attaques croisées donc entre Israël et la République islamique. La rubrique sport de ce journal. Retenez qu'en cyclisme, Tadej Pogacar a remporté son premier critérium du Dauphiné au terme de la 8e et dernière étape gagnée par un Français, Lenny Martinez. Ça s'est passé sur le plateau du Mont-Cenis en Savoie. La Fédération française de handball décidera demain s'il faudra rejouer ou non le match interrompu hier soir à Créteil en finale de National 1 masculine. Match arrêté hier soir après 85 secondes de match quand un arbitre a été blessé. Il a reçu un projectile lancé depuis les bancs du public. En football, dans moins de 2 heures maintenant, le Paris Saint-Germain va commencer à s'attaquer au monde. 2 semaines après son sacre européen en Ligue des Champions, les Parisiens vont donc débuter leur mondial des clubs. C'est la nouvelle compétition de la FIFA organisée aux États-Unis. Le PSG affrontera l'Atlético Madrid. Ce sera à Pasadena, en Californie, au nord de Los Angeles. Retenez enfin en sport que c'est une Ferrari qui a remporté la 93e édition des 24 heures du Mans pour la 3e année consécutive. Nous partons à présent en Corée du Sud, écouter de la K-pop. Là-bas, ce n'est pas seulement de la musique, c'est aussi un phénomène de société. Cette musique sud-coréenne qui a ses stars réunies dans des boys bands. Et parmi eux, les membres du groupe BTS. Ils avaient été contraints de faire une pause d'un an pour cause de service militaire obligatoire en Corée du Sud. La parenthèse s'achève et donc c'est un soulagement pour les fans qui peuvent enfin retrouver le boys band sur scène à Séoul. Parmi les fans, reportage de Celio Fioretti.
Ils étaient très nombreux, venus du monde entier, à se rassembler pour le BTS Festival, organisé chaque mois de juin en Corée du Sud pour célébrer le boys band. L'occasion pour les fans de prendre des photos et d'échanger des souvenirs, à condition de patienter en faisant la queue pour entrer, comme Laetitia et Tiffany.
Actuellement, il est 1h20, ça fait 5 heures à peu près, ça fait 5 heures. Mais en fait, ça en vaut la peine.
Le festival a une saveur toute particulière après 1 an et demi d'absence pour les membres du groupe afin d'effectuer leur service militaire obligatoire en Corée du Sud. Tenu en haleine avec la sortie d'albums enregistrés avant leur départ, leur retour est tout de même très attendu par les deux fans.
Ouais, en tout cas, trop contente qu'ils soient de retour là. J'espère quand même qu'ils se reposent un peu parce que... Ouais, ils viennent de... Et puis c'était pas facile pour eux, enfin, de ce qu'ils ont dit, du coup... Puis j'espère peut-être voir les membres. Peut-être pour voir les 7 ensemble, on sait jamais.
Photos, échanges et achats de souvenirs, un véritable événement communautaire soldé par un concert exceptionnel. Le groupe sera bel et bien au complet la semaine prochaine avec la fin de service militaire de son dernier membre. La carrière du plus célèbre boys band de K-pop n'est pas prête de s'arrêter. France Inter à Séoul, c'est Yo Fury.
Voilà, la K-pop, on aime ou on déteste. Encore un mot de sport, puisqu'en judo à l'instant, le français Johan Benjamin Gaba à Budapest vient d'être sacré champion du monde dans les moins de 73 kilos. Avant le point météo, retenez qu'il ne reste que 6 départements en vigilance aux orages, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Doubs, le territoire de Belfort et le Jura. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonsoir Magali Rochereau.
Bonsoir Eric.
Le temps va se calmer pour ce début de semaine.
Oui Eric, à part quelques rares averses sur le relief des Alpes et des Pyrénées, c'est un ciel sec et souvent bien ensoleillé qui s'impose sur le pays à partir de demain, avec quand même quelques nuages en début de journée qui voileront le ciel de la Bretagne à la Normandie et la côte d'Opale et du Mistral dans le sud dès le matin, ressenti jusqu'à assez haut dans la vallée du Rhône avec des pics à 80 km par heure.
Et des températures de nouveau à la hausse.
Oui, demain matin, les minimales seront comprises entre 10 à 16 degrés en général du nord au sud et jusqu'à 20 à 22 près de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, Météo France prévoit 22 à 27 degrés sur la moitié nord, 22 à Caen, 24 à Rennes, 25 à Reims, 25 à 29 en général au sud, 27 à Limoges comme à Bordeaux et encore 31 à 36 degrés sur les départements méditerranéens.
C'était Magali Rochereau.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Bonjour, c'est Flavien Berger.
Les concerts d'Inter au Bataclan.
Je vous donne rendez-vous ce dimanche pour découvrir pour la première fois mon nouvel album Plouf en live.
Et je plonge et je plonge et je sors de mon champ de vision.
Flavien Berger en concert, c'est ce soir de 21h à 22h sur France Inter.
Jonas Bø, le maître du thriller scandinave, est de retour en librairie. Retrouvez l'inspecteur Harry Hall sur la piste du tueur le plus machiavélique qu'il ait jamais affronté. Éclipse totale de Jonas Bø, maintenant en poche chez Folio Policier.
Former une personne de plus de 50 ans, c'est une blague.
Mais au contraire, pour moi, c'est très sérieux. Quand j'ai formé Marc, 59 ans, à la soudure laser, j'ai su que je pourrais faire confiance à son expérience. En plus, maintenant, c'est lui qui forme les nouveaux.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Et un grand merci de choisir France Inter. Il est 19h22. Voici les admirations littéraires avec l'écrivain et avocat François Sureau.
Les admirations littéraires de
François Sureau. Bonsoir. Aujourd'hui, nous vous proposons de passer quelque temps en compagnie de cet inlassable conteur et de cette personnalité très attachante qu'était Prosper Mérimée.
Voulez-vous nous décrire un peu vos impressions personnelles sur lui ?
Le voici, tel que je l'ai aperçu la première fois, beau dans ses cheveux blancs, lui qui avait été si laid dans sa jeunesse.
Ferdinand Bach, écrivain, qui rencontra, quand il était enfant, Mérimée.
Il souffrait d'une sensibilité rentrée. Elle lui venait de sa laideur quand il était jeune, de son ironie quand il était vieux.
J'aime beaucoup Mérimée. Son air de persifleur glacé, l'affectation du genre anglais, ont très souvent caché son extrême sensibilité et quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. José Cabanis, dans un petit texte, a pu soutenir sans se tromper que le grand amoureux du 19e siècle, ça n'est pas Victor Hugo, mais lui. Après avoir été quitté par Valentine de Lesserre, il n'écrit plus rien qui vaille. Il devient historien, traduit la littérature russe et passe l'hiver à Cannes, où il va mourir. Prosper Mérimée était le fils d'un historien de l'art, auteur d'un traité des Vernis qui ne l'avait pas fait baptiser. Et Mérimée a hérité du cynisme, de l'irréligion, de la rapidité du XVIIIe siècle. Et pourtant, quand il entre en littérature, c'est en prenant les couleurs du romantisme le plus vif. Il se fait un nom au théâtre, le théâtre de Clara Gazul, et c'est une danse envoûtante, où passent des femmes diaboliques et sensuelles, traquées par des inquisiteurs diaboliques, de jeunes rebelles espagnols, des amants féroces ou volages.
Tu es un brave Espagnol, je vais t'ouvrir mon cœur.
Ah, parlez, général, je grille d'impatience.
Avec partout cette ironie féroce et flegmatique qui sera sa marque.
Sais-tu qui tu as sauvé ?
Un pêcheur, peut-être.
Un contrebandier.
Un officier anglais. Le lieutenant du Royal George.
Et puis Mérimée, c'est aussi une génération. Sa vie avec Nodier, Ampère, Sutton Sharp et surtout Stendhal, dont il tracera le portrait dans le célèbre HB par l'un des 40. Les 20 volumes de la correspondance de Mérimée sont entraînants. On y croise toutes les figures du temps auxquelles il s'adresse avec une rapidité élégante et brutale, demandant au doctrinaire Royer-Collard, un personnage pas particulièrement joyeux, de faire parvenir un manuel du Kama Sutra à l'un de leurs amis, ou chapitre entier à leur ministre sur la dégradation des églises par le Batigeon moderne. On y croise surtout Victor Jacquemont, ce voyageur tout à fait oublié aujourd'hui et qui était le génie de leur petit cercle. Naturaliste, ethnologue, méditant une grande œuvre qu'il n'a jamais écrite, parti en Inde par désespoir d'amour, Jacquemont devait y mourir à 30 ans. Mérimée entretiendra en vain sa mémoire et la correspondance de Jacquemont montre l'écrivain exceptionnel qu'il se préparait à devenir. Comme tous les gens un peu sensibles, Mérimée était politiquement insaisissable. Sans doute très peu démocrate, un peu à la manière de Stendhal qui disait « J'aime mieux faire la cour au ministre de l'Intérieur qu'à mon bottier », il avait commencé comme fonctionnaire sous Louis-Philippe pour se rallier à l'Empire, qu'il fera sénateur, par amitié pour l'impératrice Eugénie qu'il avait connue jeune fille en Espagne. Et pourtant, il n'avait pas du tout cette propension des hommes de l'ordre à croire qu'ils vivent dans le meilleur des mondes possibles, que la richesse est une qualité morale et que les pauvres ont d'une certaine manière mérité leur sort. Un dernier mot sur Mérimée, on lui doit l'idée du patrimoine. Nommé inspecteur des monuments, il sauva de la destruction les monuments mis à mal par les tourments politiques et Vézelay en premier lieu. Il portait, dit-on, une bague à l'intérieur de laquelle on pouvait lire « Souviens-toi de te méfier ». La vérité est qu'au-delà des apparences, il avait bien besoin de ce rappel. Il ne s'est guère méfié et c'est aussi pour cela qu'on peut l'aimer.
Qu'est-ce qui vous a le plus attiré vers ce vieillard? Ce n'était certainement pas ses rapports archéologiques.
Ce qui m'intéressait, c'est que des méchants avaient affirmé qu'il avait fait de la prison. Comment était-ce possible d'avoir fait de la tôle et d'être en même temps inspecteur des monuments et immortel? Cette faveur dont il avait joui, je parle de la prison, il la devait au fait d'avoir insulté la magistrature.
Dans le premier texte que j'ai choisi, il fait le portrait de son ami Stendhal, HB, dans le texte, le petit livre qui s'appelle HB par l'un des 40. L'un des 40, c'est l'un des 40 membres de l'Académie française. Mérimée en était, Stendhal n'en était pas. Mérimée est d'ailleurs, à ma connaissance, le seul membre de l'Académie française qui était condamné en correctionnel après s'être présenté à la barre, alors même qu'il était membre de l'Académie, pour avoir critiqué une décision de justice. Et ce portrait, donc, s'appelle HB par l'un des 40. HB, c'est le nom de Stendhal, Henry Bayle. Alors, dans le texte lui-même, il le mentionne simplement par l'initial, mais pour la lecture, j'ai choisi de donner véritablement le nom de Bayle. Sans ça, c'est un peu plus difficile à entendre. Il avait emporté de Moscou le volume des facéties de Voltaire, relié en maroquin rouge, qu'il avait pris dans une maison qui brûlait. Ses camarades trouvaient cette action un peu légère. Dépareiller une magnifique édition, lui-même, en éprouvait une espèce de remords. Un matin, aux environs de la Bérésina, il se présenta à M. Daru, rasé et habillé avec quelques soins. « Vous avez fait votre barbe, lui dit M. Daru, vous êtes un homme de cœur. » M. B, auditeur au Conseil d'État, m'a dit qu'il devait la vie à Bayle, qui, prévoyant l'encombrement des ponts, l'avait obligé à passer la Bérésina le soir qui précéda la déroute. Il fallut employer presque la force pour obtenir qu'il fît quelques centaines de pas. En 1813, Bayle fut témoin involontaire de la déroute d'une brigade entière chargée inopinément par 5 Cosaques. Bayle vit courir environ 2000 hommes, dont 5 généraux reconnaissables à leur chapeau brodé. Il courut comme les autres, mais mal, n'ayant qu'un pied chaussé et portant une botte à la main. Dans tout ce corps français, il ne se trouva que 2 héros qui firent tête aux Cosaques. Un gendarme, nommé Menval, et un conscrit qui tua le cheval du gendarme en voulant tirer sur les Cosaques. Bayle fut chargé de raconter cette panique à l'empereur, qui l'écoutait avec une fureur concentrée, en faisant tourner une de ces machines en fer qui servent à fixer les persiennes. On chercha le gendarme pour lui donner la croix, mais il se cachait, et nia d'abord qu'il eût été à l'affaire, persuadé que rien n'est si mauvais que d'être remarqué dans une déroute. Il croyait qu'on voulait le faire fusiller. Sur l'amour, Bayle était encore plus éloquent que sur la guerre. Je ne l'ai jamais vu qu'amoureux ou croyant l'être, mais il avait eu 2 amours-passions, je me sers d'un de ces termes, dont il n'avait jamais pu guérir. Le premier en date, je crois, lui avait été inspiré par Madame
alors dans tout l'éclat de sa beauté. Il avait pour rivaux bien des hommes puissants, entre autres un général fort en faveur qui abusa un jour de sa position pour obliger Bale à lui céder sa place auprès de la dame. Le soir même, Bale trouva moyen de lui faire tenir une petite fable de sa composition dans laquelle il lui proposait allégoriquement un duel. Je ne sais pas si la fable fut comprise, mais on n'accepta pas la moralité et Bale reçut une verte semonce de M. Daru, son parent et son protecteur. Il n'en continua pas moins ses poursuites. En 1836, Bale me racontait cette aventure, le soir, sous les grands arbres de la promenade de Lan. Il ajoutait qu'il venait de voir Madame, âgée alors de 47 ans, et qu'ils s'étaient trouvés aussi amoureux qu'au premier jour. L'un et l'autre avaient eu bien d'autres passions dans l'intervalle. « Comment pouvez-vous m'aimer encore à mon âge ?» disait-elle. Il le lui prouvait très bien. Et jamais je ne l'ai vu montrer tant d'émotions. Il avait les larmes aux yeux en me parlant.
Antonia Fongy, chercheuse au CNRS.
Mérimée, évidemment, il aimait aussi son canailler, en compagnie de Stendhal. Il y a cette petite anecdote, n'est-ce pas, quand ils sont à Londres ensemble, il y a une dame qui plaît à tous les deux. Et Stendhal conjure Mérimée de lui laisser seulement ne serait-ce que 2 semaines pour jouir de cette aventure. Ce à quoi Mérimée, tout à fait distant, répond « Oh, n'importe comment, vous pouvez la prendre, étant donné que l'autre jour, en montant l'escalier devant moi, j'ai vu que son bas faisait des plis. »
Il ne supporte pas qu'un bas plisse. Hein.
Les admirations littéraires de François Sureau.
Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
François et Victoire Sureau lisent des textes de Prosper Mérimée.
Mérimée, c'est aussi l'un des grands écrivains orientalistes, orientalistes au sens large, enfin, de l'Espagne à l'Orient. Et voici maintenant un portrait par lettre, tiré de sa correspondance, de la terre d'Espagne, dont il se servira ensuite dans Carmen.
Madrid, novembre 1830. Monsieur, me voici de retour à Madrid. Après avoir parcouru pendant plusieurs mois et dans tous les sens l'Andalousie, cette terre classique des voleurs, sans en rencontrer un seul, j'en suis presque honteux. Je m'étais arrangé pour une attaque de voleurs, non pas pour me défendre, mais pour causer avec eux et les questionner, bien poliment, sur leur genre de vie. En regardant mon habit usé au coude et mon mince bagage, je regrette d'avoir manqué ces messieurs. Le plaisir de les voir n'était pas payé trop cher par la perte d'un léger porte-manteau. À différentes époques, le gouvernement espagnol s'est occupé sérieusement de purger les grandes routes des voleurs, qui, depuis un temps immémorial, sont en possession de les parcourir. Ces efforts n'ont jamais pu avoir des résultats décisifs. Une bande a été détruite, mais une autre s'est formée aussitôt. Quelquefois, un capitaine général est parvenu, à force de soins, à chasser tous les voleurs de son gouvernement, mais alors les provinces voisines en ont regorgé. La nature du pays, hérissé de montagnes, sans route frayée, rend bien difficile l'entière destruction des brigands. En Espagne, comme dans la Vendée, il y a un grand nombre de métairies isolées, aldeas, éloignées de plusieurs milles de tout endroit habité. En garnisonnant toutes ces métairies, tous les petits hameaux, on obligerait promptement les voleurs à se livrer à la justice, sous peine de mourir de faim. Mais où trouver assez d'argent, assez de soldats? Un voleur commence en général par être contrebandier. Son commerce est troublé par les employés de la douane. C'est une injustice criante pour les 9 dixièmes de la population que l'on tourmente un galant homme qui vend à bon compte de meilleurs cigares que ceux du roi, qui rapporte aux femmes des soieries, des marchandises anglaises et tout le commérage de 10 lieues à la ronde. Qu'un douanier vienne à tuer ou à prendre son cheval, voilà le contrebandier ruiné. Il a d'ailleurs une vengeance à exercer, il se fait voleur.
Et maintenant, écoutez-moi bien, vous allez remettre à mes enfants tout ce que vous avez, sans faire d'histoire, c'est compris?
Allons-y, papa, on les tue tous maintenant.
Combien de fois faudra que je te répète sous l'eau qu'on tire seulement quand papa appuie sur la gâchette?
Le modèle du brigand espagnol, le prototype du héros de grand chemin, le Robin Hood, le Roque Guinard de notre temps, c'est le fameux José María, surnommé El Templanito, le matinal. C'est l'homme dont on parle le plus de Madrid à Séville, et de Séville à Malaga. Beau, brave, courtois, autant qu'un voleur peut l'être, tel est José María. S'il arrête une diligence, il donne la main aux dames pour descendre, et prend soin qu'elles soient commodément assises, à l'ombre, car c'est de jour que se font la plupart de ses exploits. Jamais un juron, jamais un mot grossier. Au contraire, des égards presque respectueux et une politesse naturelle qui ne se dément jamais. Ôte-t-il une bague de la main d'une femme? Ah, madame, dit-il, une aussi belle main n'a pas besoin d'ornement. Et tout en faisant glisser la bague hors du doigt, il baise la main, d'un air à faire croire, suivant l'expression d'une dame espagnole, que le baiser avait pour lui plus de prix que la bague. La bague, il la prenait comme par distraction. Mais le baiser, au contraire, il le faisait durer longtemps. On m'a assuré qu'il laisse toujours aux voyageurs assez d'argent pour arriver à la ville la plus proche, et que jamais il n'a refusé à personne la permission de garder un bijou que des souvenirs rendaient précieux.
La journée commence mal, Carmen.
Pourquoi?
Pas très bavard, le petit brigadier, hein?
Il s'appelle Don José et il est navarrais.
Celui que te l'a dit?
Presque.
Menteuse, il n'a pas ouvert la bouche. Je l'ai entendu.
Tu n'as pas ouvert la bouche, comment as-tu pu l'entendre?
Allons, allons! Un peu de silence, s'il vous plaît! Elle tournait autour de lui comme un torero déçu autour d'un taureau paresseux. Elle avait beau le provoquer, il ne bougeait pas plus qu'un âne mort. Il faut en prendre ton parti, tu ne lui plais pas.
Je n'ai pas cherché à lui plaire. Tu penses, un navarrais?
Eh bien quoi, un navarrais? C'est encore trop bon pour une gitane.
Et à présent, nous allons passer de cette correspondance, de la notation prise sur le vif, au travail de l'écrivain Mérimée, se servant de ce qu'il a vu, de ce qu'il a rêvé, de ce qu'il a imaginé pour créer les personnages de Carmen.
Je suis né, dit-il, à Elizondo, dans la vallée de Bastane. Je m'appelle Don José Lizarra Bengos. Et vous connaissez assez l'Espagne, monsieur, pour que mon nom vous dise aussitôt que je suis basque et vieux chrétien. Si je prends le don, c'est que j'en ai le droit. Et si j'étais à Elizondo, je vous montrerais ma généalogie sur un parchemin. On voulait que je fusse d'église, et on me fit étudier, mais je ne profitais guère. J'aimais trop à jouer à la paume, et c'est ce qui m'a perdu. Quand nous jouons à la paume, nous autres Navarrais, nous oublions tout. Un jour que j'avais gagné, un gars de l'Alava me chercha querelle. Nous prîmes nos maquilas, et j'eus encore l'avantage, mais cela m'obligea de quitter le pays. Je rencontrais des dragons, et je m'engageais dans le régiment d'Almansa, cavalerie. Les gens de nos montagnes apprennent vite le métier militaire. Je devins bientôt brigadier, et on me promettait de me faire maréchal des logis, quand, pour mon malheur, on me mit de garde à la manufacture de tabac à Séville. Si vous êtes allé à Séville, vous aurez vu ce grand bâtiment-là, hors des remparts, près du Guadalquivir. Il me semble en voir encore la porte et le corps de garde auprès. Quand ils sont de service, les Espagnols jouent aux cartes ou dorment. Moi, comme un franc navarrais, je tâchais toujours de m'occuper. Je faisais une chaîne avec du fil de laiton pour tenir mon épinglette. Tout d'un coup, les camarades disent « Voilà la cloche qui sonne. Les filles vont rentrer à l'ouvrage. Vous saurez, monsieur, qu'il y a bien 400 à 500 femmes occupées dans la manufacture de tabac. Ce sont elles qui roulent les cigares dans une grande salle où les hommes n'entrent pas, parce qu'elles se mettent à leur aise, les jeunes surtout, quand il fait chaud. À l'heure où les ouvrières rentrent après leur dîner, bien des jeunes gens vont les voir passer. J'étais jeune alors, je pensais toujours au pays, et je ne croyais pas qu'il y eût de jolies filles sans jupe bleue et sans natte tombant sur les épaules. D'ailleurs, les Andalouses me faisaient peur. J'étais donc le nez sur ma chaîne, quand j'entends des bourgeois qui disaient « Voilà la Gitanilla ». Je levai les yeux et je la vis. C'était un vendredi, et je ne l'oublierai jamais. Je vis cette Carmen que vous connaissez. Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blanc, avec plus d'un trou, et des souliers mignons de maroquin rouge, attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassis qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassis dans le coin de la bouche et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé tout le monde à se signer. D'abord, elle ne me plut pas et je repris mon ouvrage. Mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on ne les appelle pas, s'arrêta devant moi et m'adressa la parole et prenant la fleur de cassis qu'elle avait à la bouche, elle me la lança d'un mouvement du pouce juste entre les deux yeux. Monsieur, ça me fit l'effet d'une balle qui m'arrivait. Je ne savais où me fourrer, je demeurais immobile comme une planche. Quand elle fut entrée dans la manufacture, je vis la fleur de cassis qui était tombée à terre entre mes pieds. Je ne sais ce qui me prit, mais je la ramassai sans que mes camarades s'en aperçussent. Et je la mis précieusement dans ma veste, première sottise. Deux ou trois heures après, j'y pensais encore, quand arrive dans le corps de garde un portier, tout haletant, la figure renversée. Il nous dit que dans la grande salle des cigares, il y avait une femme assassinée. Le maréchal me dit de prendre deux hommes et d'y aller voir. Je prends mes hommes et je monte. Figurez-vous, monsieur, qu'entrée dans la salle, je trouve d'abord 300 femmes en chemise, ou peu s'en faut, toutes criant, hurlant, gesticulant. D'un côté, il y en avait une, les quatre fers en l'air, couverte de sang, avec un X sur la figure, qu'on venait de lui marquer de deux coups de couteau. En face, je vois Carmen, tenue par cinq ou six commères. La femme blessée criait « Confession, confession, je suis morte !» Carmen ne disait rien, elle serrait les dents, il roulait des yeux comme un caméléon. Le cas était clair, je pris Carmen par le bras. « Ma sœur, dis-je poliment, il faut me suivre. » Elle me lança un regard, comme si elle me reconnaissait, et elle dit d'un air résigné « Marchons. Où est ma mantille ?» Elle la mit sur sa tête, de façon à ne montrer qu'un seul de ses grands yeux, et suivit mes deux hommes, douces comme un mouton. Nous nous mîmes en route pour la ville. D'abord, la bohémienne avait gardé le silence. Mais dans la rue du Serpent, vous la connaissez, elle mérite bien son nom, par les détours qu'elle fait, dans la rue du Serpent, elle commence par laisser tomber sa mantille sur ses épaules afin de me montrer son minois enjôleur. Et se tournant vers moi autant qu'elle pouvait, elle me dit « Mon officier, où me menez-vous ? À la prison, ma pauvre enfant, lui répondis-je. Hélas, que deviendrai-je, seigneur officier ? Ayez pitié de moi, vous êtes si jeune, si gentil. » Puis d'un ton plus bas, « Laissez-moi échapper, dit-elle. Je vous donnerai un morceau de la barlachi qui vous fera aimer de toutes les femmes. » Le barlachi, monsieur, c'est la pierre d'aimant avec laquelle les bohémiennes prétendent qu'on fait quantité de sortilèges quand on sait s'en servir. Nous autres gens du Pays Basque, nous avons un accent qui nous fait reconnaître facilement les Espagnols. Carmen n'eut donc pas de peine à deviner que je venais des provinces. Vous saurez que les bohémiens, monsieur, n'étant d'aucun pays, voyageant toujours, parlent toutes les langues. Carmen savait assez bien le basque. Camarade de mon cœur, me dit-elle tout à coup, êtes-vous du pays ? « Notre langue, monsieur, est si belle que lorsqu'on l'entend en pays étranger, ça nous fait tressaillir. »« Je suis d'Elizondo, lui répondis-je en basque. »« Moi, je suis d'Etchalar, dit-elle. C'est un pays à 4 heures de chez nous. J'ai été emmenée par des bohémiens à Séville. »« Camarade, mon ami, ne ferez-vous rien pour une payse ?» Elle mentait, monsieur. Elle a toujours menti. Ma foi, j'oubliais la consigne et tout. Et je lui dis, « Eh bien, mamie, ma payse, essayez. » et que Notre-Dame de la Montagne vous vienne en aide. À ce moment, nous passions devant une de ces ruelles étroites. Tout à coup, Carmen se retourne et me lance un coup de poing dans la poitrine. Je me laissais tomber exprès à la renverse. D'un bond, elle saute par-dessus moi et se met à courir en nous montrant une paire de jambes. En moins de temps que je n'en mets à vous le dire, la prisonnière avait disparu.
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, et c'est bien en vain qu'on s'il lui convient de refuser l'amour.
Et Victoire Sureau lisent des textes de Prosper Mérimée.
Si vous avez tué un homme, allez dans le maquis de Porto Vecchio et vous y vivrez en sûreté, avec un bon fusil, de la poudre et des balles. Et vous n'aurez rien à craindre de la justice ou des parents du mort. Matteo Falcone, quand j'étais en Corse en 1800 et quelques, avait sa maison à une demi-lieue de ce maquis.
Mérimée n'a pas seulement exploré une Espagne, une Corse, un Orient rêvé, mais il a également exploré l'histoire de France un peu à la manière d'Alexandre Dumas avec les Trois Mousquetaires, et a tiré de différents épisodes des guerres de religion un livre tout à fait étonnant qui s'appelle « La chronique du règne de Charles IX ». La scène se passe dans une taverne. « Eh bien, ma belle enfant, aurais-je pour ma maîtresse la femme que j'aime ?» Mila lui donna une chiquenaude sur la main. « Heure et malheur, dit-elle. » Des yeux bleus font du mal et du bien. Le pire, c'est que tu verseras ton propre sang. Le capitaine et le cornet gardèrent le silence, paraissant tous les deux également frappés de la fin sinistre de cette prophétie. L'aubergiste faisait de grands signes de croix à l'écart. « Je croirais que tu es véritablement sorcière, » dit Mergy, « si tu peux me dire ce que je vais faire tout à l'heure. Tu m'embrasseras, » murmura la bohémienne à son oreille. « Elle est sorcière, » s'écria Mergy en l'embrassant. Il continua de s'entretenir tout bas avec la jolie devineresse et leur bonne intelligence semblait s'accroître à chaque instant. Truchen prit une espèce de mandoline, qui avait à peu près toutes ses cordes, et préluda par une marche allemande. Alors, voyant autour d'elle un cercle de soldats, elle chanta dans sa langue une chanson de guerre dont les reîtres entonnèrent le refrain à tue-tête. Le capitaine, excité par son exemple, se mit à chanter, d'une voix à faire casser tous les verres, une vieille chanson huguenote dont la musique était au moins aussi barbare que les paroles. Le prince de Condé, il a été tué, mais monsieur l'amiral est encore à cheval, avec la Rochefoucauld pour chasser tous les papots, papots, papots. Tous les reîtres, échauffés par le vin, commencèrent à chanter chacun, un air différent. Les plats et les bouteilles couvrirent le plancher de leurs débris, la cuisine retentit de jurements, d'éclats de rire et de chansons bachiques. Bientôt, cependant, le sommeil, favorisé par les fumées du vin d'Orléans, fit sentir son pouvoir à la plupart des acteurs de cette scène de bacchanal.
Les soldats se couchèrent sur des bancs. Le cornette, après avoir posé deux sentinelles à la porte, se traîna en chancelant vers son lit. Le capitaine, qui avait conservé encore le sentiment de la ligne droite, monta sans fourvoyer l'escalier qui conduisait à la chambre de l'hôte qu'il avait choisi comme la meilleure de l'auberge. Émergie et la bohémienne, avant la chanson du capitaine, ils avaient disparu, l'un et l'autre.
La sauvagerie se cache quelquefois derrière les apparences les plus mesurées. Qu'en pensez-vous, Colombard ?
Je ne sais pas cacher mes sentiments, pour mes amis comme pour mes ennemis.
Et c'est pour eux que vous portez ce poignard ? Vous n'hésiteriez pas à en donner un coup si on vous attaquait ?
Pourquoi ? Mon adversaire, lui, n'hésiterait pas.
Mérimée, à côté de son théâtre, si plein de passion, à côté de ses nouvelles extraordinaires, Colomba, La Vénus d'Île, Matteo Falcon, a entretenu toute sa vie une correspondance extrêmement abondante. Et dans cette correspondance, il fait des portraits tout à fait savoureux. Et en particulier, le portrait, si je puis dire, de la province. La province, c'est comme ça que les Français appelaient, de manière générale, les provinces, tout ce qui n'était pas à Paris, à une époque où la technocratie n'avait pas encore baptisé ces endroits du nom abject de territoire, qui fait à la fois penser à l'administration du territoire et à quelques Far West. Voici par exemple ce qu'il écrit à un ami de Vézelay, le 9 août 1834. Vous saurez, cher ami, que je suis depuis un jour dans une ville très célèbre parce que Saint-Bernard y prêcha la seconde croisade. Et maintenant si arriéré que le cirage anglais y est inconnu, et même l'encre de la petite vertu au point que j'ai été obligé d'en composer moi-même pour vous écrire. Figurez-vous un pain de sucre au milieu d'une vallée, lequel pain domine 10 lieues à la ronde. En haut est perchée une grande église, si grande que toute la ville s'y tiendrait, habitants et maisons. D'ailleurs, la plus belle vue du monde, rivière, bois et rochers, rien n'y manque. J'y ai trouvé un maire assez intelligent qui m'a fait de fort bonne grâce les honneurs de son église. Elle est dans un état pitoyable, il y pleut à verse et entre les pierres poussent des arbres gros comme le bras. La ville et le département, en se saignant, sont parvenus à voter 1800 francs pour la réparer. Il faudrait ajouter plusieurs zéros pour y faire les réparations nécessaires. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu de plus beau en fait d'architecture romane. Les bas-reliefs et les chapiteaux sont admirables et une fois admis, leur style baroque est du plus grand effet. Que vous dirais-je des provinciaux ? Quelle engeance ! Le constitutionnel et Victor Hugo les ont formés depuis quelque temps. Autrefois, c'était de bonnes gens qui parlaient comme M. Gorgibus. Maintenant, ils font des phrases qui durent 5 minutes à débiter. J'ai passé quelques jours à Nevers, où j'ai trouvé de belles églises romanes converties en brasserie et en magasins à fourrage. J'ai trouvé aussi le colonel Braque, avec qui j'ai souvent parlé de vous. Il a commencé par me dire qu'il me détestait, parce que dans un livre intitulé « Comédie de Clara Gazul », j'avais persiflé les officiers de la garde impériale qui étaient, comme chacun sait, l'aménité même. Je l'ai bien vite apaisé en parlant convenablement du grand homme, terme de province, et nous sommes devenus bientôt bons amis. En vieillissant, le colonel B a pris les goûts du siècle. Il apprend à lire à ses hussards par des méthodes abrégées, il invente des morts pour les chevaux, il écrit des brochures à l'usage des sous-officiers, enfin, il perfectionne et améliore bêtes et gens. Entre autres perfectionnements, il veut introduire l'homéopathie pour les chevaux et a guéri, dit-il, un cheval poitrinaire avec 1 millionième de grain d'arnica. Ces officiers ne ressemblent en aucune façon aux farouches hussards de l'Empire, ce sont des jeunes gens instruits, artistes, modestes et même naïfs. J'ai dîné avec les sous-lieutenants. On ne jurait point, on ne parlait pas de filles, de duels, mais de littérature, d'archéologie et de morale. Avec ça, ces messieurs sont bien à cheval et je crois qu'ils rendraient bon compte aux Prussiens si on leur en donnait. J'ai assisté à un bal donné par la ville au régiment et j'étais présenté comme un homme, je cite, dont le cœur et la plume étaient également français. Vous ne pourriez, je crois, imaginer les toilettes de ce bal et les façons de ces dames. Cela m'a beaucoup amusé pendant une demi-heure. Ensuite, j'ai trouvé que cela ne valait pas une soirée au café anglais. Je vis 2 à la coque à Vézelay et 2 pommes de terre. Le pays ne produit que des sauces blanches, assez semblables pour la couleur et le goût à de la pâte, et du pain noir qui tient comme de la poix. Sachez qu'en Espagne, pays barbare, dites-vous, tout le monde, depuis le grand jusqu'au muletier, mange du pain blanc, qu'il y a de l'encre dans les auberges et qu'on ne laisse pas tomber en ruine les belles églises. Se peut-il que des sauvages comme les Français s'occupent de constitution et de droit politique quand ils ont tant de choses à faire pour vivre supportablement ? Plus je vois mes compatriotes et plus je vénère Napoléon. Il est fâcheux qu'il n'ait pas régné 20 ans de plus. Il y aurait eu du pain et de l'encre à Vézelay.
Écrivez-moi à Lyon où votre lettre peut arriver avant le 16 et donnez-moi des nouvelles du monde dont j'étais il y a 8 jours. J'écrirai demain au ministre pour lui demander de prendre en pitié les vieilles pierres qui se brisent, c'est-à-dire se délitent, se détruisent. Je crains d'oublier ici le français. Adieu, 1000 choses à tous les amis.
Ferdinand Bach, écrivain, qui rencontra, quand il était enfant, Mérimée.
Prosper Mérimée. J'ai aimé le surnom qu'on lui avait donné, car on l'appelait le polisson du directoire.
Je voudrais finir sur une lettre que j'aime beaucoup, parce qu'elle témoigne de l'humanité de cet homme qu'on disait à la fois froid et distant. C'est une lettre adressée à Jenny Daquin. La franchise et la vérité sont rarement bonnes auprès des femmes, elles sont presque toujours mauvaises. Voilà que vous me regardez comme un sardanapale parce que j'ai été un bal de figurante d'opéra. Vous me reprochez cette soirée comme un crime. Et vous me reprochez comme un plus grand crime encore de faire l'éloge de ces pauvres filles. Je le répète, rendez-les riches et il ne leur restera plus que leur bonne qualité. Mais l'aristocratie a élevé des barrières insurmontables entre les différentes classes de la société afin qu'on ne puisse voir combien ce qui se passe au-delà de la barrière ressemble à ce qui se passe en deçà. Je vais vous conter une histoire d'opéra que j'ai apprise dans ces sociétés si perverses. Dans une maison de la rue Saint-Honoré, il y avait une pauvre femme qui ne sortait jamais d'une petite chambre sous les toits qu'elle louait moyennant 9 francs par mois. Elle avait une fille de 12 ans, toujours très bien tenue, très réservée, et qui ne parlait à personne. Cette petite sortait 3 fois la semaine dans l'après-midi et rentrait seule à minuit. On sut qu'elle était figurante à l'opéra. Un jour, elle descend chez le portier et demande une chandelle allumée. On la lui donne. La portière, surprise de ne pas la voir redescendre, monte à son grenier, trouve la femme, morte sur son grabat. Et la petite fille, occupée à brûler une énorme quantité de lettres qu'elle tirait d'une fort grande malle. Elle dit « Ma mère est morte cette nuit et elle m'a chargé de brûler toutes ses lettres sans les lire. » Cet enfant n'a jamais su le véritable nom de sa mère. Elle se trouve maintenant absolument seule au monde et n'ayant d'autres ressources que celles de faire les vautours, les singes ou les diables à l'opéra. Le dernier conseil de sa mère a été pour l'engager à être bien sage et à continuer à être figurante à l'opéra. Elle est d'ailleurs fort sage, très dévote et ne se soucie guère de raconter son histoire. « Veuillez me dire, si cette petite fille n'a pas infiniment plus de mérite à mener la vie qu'elle mène, que vous n'en avez, vous qui jouissez du bonheur singulier, d'un entourage irréprochable et d'une nature si raffinée qu'elle résume un peu pour moi toute une civilisation, il faut vous dire la vérité. Je ne supporte la mauvaise société qu'à de rares intervalles. Et par une curiosité inépuisable de toutes les variétés de l'espèce humaine. Je n'ose jamais aborder la mauvaise société en homme. Il y a là quelque chose de trop repoussant, surtout chez nous. Car en Espagne, j'ai toujours eu des muletiers et des toreros pour amis. Ne croyez pas que j'ai une prédilection pour la canaille. J'aime simplement avoir d'autres mœurs, d'autres figures, à entendre un autre langage. Les idées sont toujours les mêmes. Et si l'on fait abstraction de tout ce qui est convention ou règle, je crois qu'il y a du savoir-vivre ailleurs, que dans un salon du Faubourg Saint-Germain. Mais tout cela est de l'arabe pour vous. Et je ne sais pas pourquoi je vous le dis.
Les admirations littéraires de François Sureau. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia. Elle a été préparée par Perrine Malinge. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Elle a été enregistrée par Julien Chabassu et mixé par Bruno Mourlan. La semaine prochaine, nous retrouverons Sophie Marceau. Elle lira des textes sur la création littéraire. Écoutez France Inter, à suivre Les Petits Bateaux et Le Masque et la Plume.
Le maître du polar revient avec un nouveau héros. Découvrez Sous les eaux d'Avalon de Michael Connelly. Sur l'île de Santa Catalina, l'inspecteur Stilwell pensait couler des jours tranquilles. Mais un cadavre retrouvé dans le port va tout faire basculer. Nouveau personnage, nouvelle enquête, Sous les eaux d'Avalon de Michael Connelly.
aux éditions Kalman-Lévy.
Recruter une personne de plus de 50 ans ? Jamais de la vie.
Ah, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
France Inter, partenaire des Francopholies de La Rochelle. Plus de 80 concerts et rencontres musicales du 9 au 14 juillet 2025 avec Clara Luciani, R, Lamo Mali, SDM, Ayam, Philippe Catherine, Solane, Cassius, Dali et bien d'autres. Les Francopholies de La Rochelle, un événement France Télévisions et France Inter.
France Inter. Première radio de France. Très bon.